deuxième temps de notre série sur les histoires du monde à l'occasion de la parution chez Fayard d'une histoire du monde au XVe siècle. Hier, notre invité était justement celui qui a dirigé cet ouvrage collectif, gros ouvrage collectif d'une histoire du monde au XVe siècle. C'était Patrick Boucheron. Il nous a expliqué comment aujourd'hui il était essentiel, selon lui et selon ceux qui ont participé à cet ouvrage, d'évoquer le monde avec la pluralité des mondes de l'époque au XVe siècle, qu'il soit monde chinois, monde de l'océan Indien, monde d'Afrique ou encore monde d'Océanie ou d'Amérique. Demain, nous traiterons des histoires universelles médiévales en évoquant des textes d'Isidore de Séville ou encore de Vincent de Beauvais, commentés par Mireille Chazan et Isabelle Landonna. Jeudi, notre débat historiographique portera sur la World History. Qu'est-ce que l'histoire globale aujourd'hui? Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire s'intitule Cartographier le monde dans l'Antiquité. C'est un documentaire de Perrine Kervran et de Véronique Samouilov. On s'y intéresse à Ptolémée, Ératosthène, Strabon, Hérodote, tous ceux qui étaient à la fois soit géographe, soit historien, soit mathématicien, qui mettaient tous ces savoirs en commun pour pouvoir comprendre le monde de leur époque. Nous nous promenons en particulier à l'Institut de Géographie, mais également au département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, avec Christian Grataloup, Christian Jacob, Guillaume Le Bailly et Catherine Hoffmann. Cartographier le monde dans l'Antiquité, un documentaire de Perrine Kervran et de Véronique Samouilov, jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, aujourd'hui.
Alors, on est caillou, terre. Oh, oh, je le lance sur le 1.
Ils veulent se représenter le monde, en connaître les confins, en dessiner les contours.
Terre.
Ils veulent saisir la forme de la Terre, qu'elle soit un disque, un carré, un cylindre ou une sphère.
Ensuite, traversons-la.
Ils veulent en calculer la surface et la circonférence.
2, 3, 4, 5, 6.
Ils observent le ciel et les rayons du soleil. 7, 8, ils évaluent les distances avec des marcheurs, 9, vont consulter et compiler les travaux de leurs prédécesseurs dans la bibliothèque d'Alexandrie,
yeah,
et parcourent les terres et les mers avec les navires de commerce ou les armées en campagne. Ils sont à la fois philosophes, mathématiciens, voyageurs, explorateurs, historiens et géographes. Hérodote, Ératosthène, Strabon et Ptolémée sont quelques-uns de ces savants de la Grèce antique à l'origine de la cartographie moderne. Mais au même moment, d'autres cartographes en Chine, en Corée, au Japon et ailleurs ont les mêmes préoccupations. Dessiner le monde ancien.
Après le ciel, à l'infini, l'infini.
Vous avez des sociétés à cartes et des sociétés sans cartes. Mais vous avez des sociétés où la cartographie a une place très très importante et il y a toujours un rapport avec ce que la notion occidentale d'État.
Christian Grataloup.
C'est très net en Chine en particulier. Ce serait net certainement dans la mesure où nous aurions des restes pour les Aztèques et pour les Incas, par exemple. Mais il y a des sociétés qui ont des structures politiques complexes, les sociétés indiennes en particulier, de l'Inde asiatique, et qui n'ont pas véritablement de tradition cartographique. Et on a une continuité historique entre la cartographie de l'Antiquité grecque et ses propres racines mésopotamiennes et égyptiennes, et d'autre part la cartographie médiévale et la cartographie moderne. Mais il y a des cartographies dans d'autres sociétés, donc qui ne correspondent pas forcément à notre filiation. Elles sont probablement nées avec l'écriture, enfin tout c'est un mode d'écriture, la carte. Donc la carte a un rapport avec la gestion du territoire, mais aussi, et c'est tout autre chose, avec la cosmogonie. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre sous le mot carte les deux choses qui se sont coagulées dans l'Europe de la Renaissance avec le planisphère, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une pensée du monde, une vision du monde, que cette vision peut être dessinée, pas forcément, mais elle peut l'être, et d'autre part qu'il y a une gestion d'un territoire qui est généralement à court rayon d'action, et que l'on peut effectivement représenter, parce que ça en donne les moyens de la gestion, ça en donne une mémoire, ça en donne une trace juridiquement non contestable, ce qu'on appelle un cadastre par exemple, et cela c'est tout autre chose.
Alors on est devant une grande carte qui doit faire à peu près 1,70 m sur 1,60 m. C'est le planisphère de Candido. Donc c'est une carte du 15e siècle où sont rassemblés à peu près tous les savoirs des cartographes chinois et coréens accumulés depuis le 2e siècle. Alors sur la carte, on voit bien donc les terres sont un vaste continent écru qui est veiné de fleuves et de rivières. On voit donc quelques montagnes. Et sur les terres sont dessinés des carrés rouges et des idéogrammes. Le sud de la carte est occupé par une mer bleu-vert. Là, on voit bien qu'elle est parcourue de vagues. Et dans cette mer sont représentées des îles. Alors, il y en a de différentes formes, certaines qui ont des formes assez irrégulières et d'autres qui sont des cercles parfaits ou de petits rectangles. Le planisphère en lui-même est bordé donc d'idéogrammes. Et ce qui frappe finalement, c'est que la Corée, la Chine et le Japon sont représentés bien plus grands qu'en réalité.
Et généralement, les cartes chinoises pensent le monde à plat. Non pas qu'ils ne soient pas convaincus intellectuellement par la pensée d'un monde sphérique, mais que ça n'a pas d'application pratique. Alors, la cartographie chinoise, et donc coréenne, japonaise, donc du monde chinois, qui existe en Chine depuis très longtemps et qui a la même ancienneté. Il y a une école contemporaine, d'ailleurs de celle de Ptolémée, on connaît des cartes, des peintures sur soie, qui ont à peu près 2000 ans, et on sait par des récits qu'il y en a de beaucoup plus anciennes. Donc, vous avez effectivement cette idée d'un monde représenté d'ailleurs sur une base carrée, parce que ça correspond à l'idée que le ciel est rond et la Terre est carrée. On dit souvent que le monde est conçu comme un chariot avec sa caisse carrée et puis sa bâche ronde au-dessus. Donc vous avez ce monde qui est un carré dans lequel on peut inscrire toute une série de petits carrés avec un carré central qui correspond au cœur historique de la Chine, ce qu'on appelle parfois la fleur centrale dans le beau vocabulaire chinois. Et puis vous avez des carrés emboîtés qui représentent le reste de l'Empire Han, puis ce que les Chinois appellent les barbares cuits, c'est-à-dire les dominés, puis les barbares crus, c'est-à-dire tous les autres, ceux qui sont appelés un jour à cuire. Voilà. Donc on a bien une vision géopolitique du monde qui est présente, et qui est en même temps une vision très très gestionnaire, parce que les cours d'eau, la localisation des villes est tout à fait correcte à l'intérieur de l'espace chinois. Dès qu'on s'éloigne de l'espace chinois, c'est évidemment toute autre chose. L'Afrique est en fait une espèce de grand trou, parce que c'est les grands lacs qui les frappent. Si on aborde l'Afrique par le littoral indien, de l'océan indien, évidemment, ce sont là rencontrés les grands lacs, ou l'idée des grands lacs. Et au-delà, il y a un petit grand lac qui apparaît, qui est la Méditerranée, et il y a une série de noms qui sont des noms d'Européens. Vous avez les mots France, Angleterre, qui sont transcrits, bien sûr, en caractère chinois, c'est-à-dire, en fait, dans des traductions phonétiques des mots persans, en général. Et vous avez même Alexandrie, qui est représentée avec une pagode, parce que c'est l'idée du phare. Donc on voit bien la filiation, le lien avec la géographie alexandrine dont je parlais tout à l'heure.
De terre cuite, donc de la terre cuite rouge qui doit faire à peu près 12 cm sur 8 cm. Alors c'est une tablette babylonienne qui représente le monde. Alors elle est assez abîmée, hein, il manque quelques fragments, on voit bien sur le haut de la tablette. Sur la partie supérieure, on voit gravé un texte en cunéiforme, donc qui est en fait un récit de conquête. Et puis sur la partie inférieure, on voit bien un disque. Alors le disque représente le monde, et donc le disque est entouré d'un cercle qui figure lui l'océan, et au-delà du cercle de l'océan, le reste du monde est représenté lui par 7 pointes qui font comme des petites oreilles, qui sont comme des îles.
Alors, c'est une des vedettes du British Museum. Elle est évidemment moins célèbre que la pierre de Rosette, mais elle est tout à fait importante et on a souvent tendance à la considérer comme une sorte de premier planisphère. Alors, elle n'est pas très très ancienne, hein. Elle est du 7e siècle, peut-être même du début du 6e avant Jésus-Christ, donc de la seconde Babylone. Alors, cette carte, c'est un disque plat entouré d'un anneau qui est l'océan. Alors, cet océan qui s'appelle Maratu dans le langage de la Mésopotamie, on va le retrouver dans la vision antique des Hébreux et on va l'avoir transmise dans l'Europe médiévale. C'est la base de notre map-monde médiéval. Donc pour nous, c'est pas surprenant, ça nous semble tout à fait naturel et pourtant, c'est un objet qui est un choix. Pour les Chinois, ce monde terrestre aurait été carré et non pas rond. au centre de ce cercle, enfin plutôt traversant ce cercle, vous avez une sorte de courbe qui va d'un bout à l'autre et qui représente le cœur du monde, c'est-à-dire la Mésopotamie, avec en haut, enfin d'un côté la mer d'en haut, c'est-à-dire en fait pour eux la Méditerranée, celle qui était en amont, et de l'autre la mer d'en bas, donc le golfe arabo-persique, celui qui est évidemment en aval du Tigre et de l'Euphrate. Au centre, il y a Babylone, qui est donc le centre du monde. Et là, c'est assez amusant parce que ça correspond aussi au là où le scribe a mis son compas pour tracer les deux cercles du monde. Alors, vous avez un certain nombre de lieux qui sont indiqués, qui correspondent en fait à un tout petit monde, ce que nous, on appellerait aujourd'hui, dans le langage géopolitique britannique du 19e, le Moyen-Orient. Mais c'est effectivement ce monde pensé, qui est en gros d'ailleurs le monde décrit dans la Bible. Les cosmogonies sont toujours et des genèses et des descriptions du monde. Puisque ces cosmogonies sont pensées pour le réel, elles ne doivent pas être contradictoires avec l'expérience. Donc on a bien la vallée qui est présente, on a bien les mers qui sont présentes, on a bien un certain nombre de lieux, à commencer par Babylone, qui sont bien indiqués sur cette carte.
Bienvenue sur l'Olympe, Jason. Je suis Hera, la reine des dieux, et je protégerai ton voyage. Ne dis rien pour l'instant. Je sais ce que tu veux me demander. Est-ce que la toison d'or existe? Et si oui, où est-elle? Cherche sur la terre de Colchide.
Mais la Colchide, c'est aux confins du monde. Nul grec n'a navigué jusque-là.
J'ai entendu, Jason. Quelle nef est assez solide pour atteindre les confins du monde? Quel marin assez brave pour se joindre à ton destin?
J'inviterai les plus braves et les plus forts des Grecs. Je leur dirai que seuls les meilleurs peuvent participer au plus périlleux voyage de l'histoire. À moins que les dieux n'en décident autrement.
Alors là, on a vraiment une petite carte qui doit faire à peu près 20 cm sur 30. C'est à peu près un format A4. Donc une carte imprimée sur un papier en noir et blanc. Et c'est une représentation du monde qui est tirée de l'enquête d'Hérodote et qui, finalement, relève autant de l'histoire que de la géographie. Donc la carte est réalisée, par contre, au 19e siècle par Gabriel Marcel. Alors on voit bien donc sur cette carte que le monde d'Hérodote s'inscrit dans un rectangle et plus du tout dans un disque. Donc sur la carte, la surface terrestre est représentée comme une île à trois branches. Donc il y a finalement des péninsules qui sont les trois continents, l'Asie, l'Europe et la Libye, qu'on appellerait aujourd'hui l'Afrique. On peut lire par endroits sur la carte Terra Incognita.
Et puis une carte qui m'amènera à parler du document et qui est la vision du monde selon Hérodote.
D'accord, Guillaume Le Bailly.
Cicéron a parlé d'Hérodote comme père de l'histoire, mais c'est vrai qu'Hérodote, du fait de ses voyages et des connaissances qu'il a tenté de mettre en œuvre au cours de ses descriptions historiques du conflit entre les Grecs et les Perses, Hérodote, en plus de son surnom de père de l'histoire, peut avoir le surnom de père de l'ethnographie et de père de la description géographique. Ainsi, dans le conflit entre les Grecs et les Perses, Hérodote décrit de manière géographique et ce qu'on appellerait actuellement ethnographique, les différents peuples en présence, et l'Empire perse couvrant une grande partie du monde connu à l'époque, ces événements historiques donnent lieu à une description de ce qu'on pourrait appeler le monde connu de l'Antiquité. C'est pour ça que certains commentateurs modernes ont d'ailleurs pu parler d'Hérodote comme le meilleur guide touristique de l'Antiquité d'une certaine façon. Car du fait de ses voyages et du fait de sa nouvelle méthode historiographique explicative, il nous donne une vraie description. Alors on n'a évidemment aucune représentation visuelle, mais une description textuelle très parlante et très raconté d'une certaine manière, parce qu'Hérodote est un conteur. Donc il a connu tout le 5e siècle florissant de l'histoire de la Grèce, qu'on a coutume d'appeler l'âge classique ou l'âge d'or de la Grèce. Et il est né donc dans cette partie du monde grec, l'Asie mineure, qui connaît à cette période un vrai développement intellectuel de tous azimuts. Donc Hérodote bénéficie d'un contexte culturel très favorable à un renouveau des méthodes, pour lui historiographique, mais pour nous beaucoup plus large, géographique, ethnographique, etc. Il a visité l'Égypte, il a visité Babylone, il a visité une grande partie de ce qu'il appelle la City, qui correspond aux côtes de mer Noire actuelles. Et ses voyages lui ont permis de prendre connaissance du monde autre que grec, et c'est véritablement ça qui nous intéresse. Il a également pu voyager à Athènes, il a été en relation avec toutes les personnalités influentes de son temps, Périclès, le tragédien Sophocle, etc. Hérodote est donc né vers 484. 484, c'est quelques années à peine avant la fin du grand conflit qui a ébranlé cette partie du monde à l'époque, qui sont les guerres médiques. Et ce conflit a opposé les Grecs et les Perses, et l'Asie mineure a été évidemment très touchée à cette époque par ce conflit. Dans la première phrase de son ouvrage, Les Enquêtes, il tente précisément d'enquêter sur les causes de ce conflit avant d'en expliquer la partie événementielle elle-même. Donc c'est cette motivation historiographique qui l'amène, par ricochet si on peut dire, à parler de la géographie, des frontières, des pays, des peuples en présence et de la conception du monde dont il a été témoin dans ce rayonnement culturel bouillonnant de sa région d'origine et qu'il tente de remettre en question à partir de ses propres observations. Il parle d'autopsie, un mot qu'on utilise maintenant pour la médecine, mais qui veut dire voir par soi-même. Donc il va véritablement voir par lui-même et décrire le monde tel qu'il le comprend.
Je ris quand je vois que beaucoup déjà ont dessiné des images d'ensemble de la Terre sans qu'aucun n'en ait donné un commentaire raisonnable.
Il dit « Je ris quand je vois que beaucoup déjà ont dessiné des images d'ensemble de la Terre sans qu'aucun n'en ait donné un commentaire raisonnable. »
Il représente l'océan entourant la Terre de toutes parts comme si elle était faite au compas. Il s'imagine l'Asie égale à l'Europe. Mais moi, je vais montrer en peu de mots la grandeur de chacune de ces parties du monde. Et en décrire la
toujours Hérodote, je vais montrer en peu de mots la grandeur de chacune de ces parties du monde. Donc cela n'amène pas à une représentation cartographique à proprement parler, mais à un texte très visuel qui a permis à ses commentateurs de dresser une carte, d'une certaine manière, des peuples décrits. Donc ici, avec la carte que j'ai devant moi, dressée par Gabriel Marcel, le monde d'Hérodote, on voit une terre centrée sur le bassin méditerranéen, mais plus de manière aussi géométrique que l'avaient fait ses prédécesseurs. On sait qu'Hérodote se moque d'Hécatée de Milet ou de ses prédécesseurs comme Anaximandre de Milet, qui estimait que le centre du monde se situait à Delphes, nombril du monde, comme on l'appelait à l'époque, Omphalos, et estimait qu'il fallait recentrer la géographie en fonction des observations qu'on pouvait faire sur place et non en fonction d'une reconstruction abstraite basée sur des usages presque religieux. De fait, on a sur cette carte des formes assez biscornues.
Oui, donc là, on n'a pas de disque plat.
On n'a pas de disque plat, voilà.
Alors, il n'y avait pas de levée cartographique, topographique, systématique.
Christian Grataloup.
Sauf pour de petites surfaces. Vous avez inversement une curiosité pour le reste vis-à-vis de tous les récits de voyage. Alors, là, c'est rare que les récits soient formalisés. On n'écrivait pas forcément des descriptions de voyage, sauf parfois a posteriori. Mais vous aviez, chaque fois qu'un navigateur revenait de loin, évidemment, son savoir était recherché. On a affaire à une société dans laquelle il y avait beaucoup de commerçants, beaucoup de voyageurs, et donc on pouvait voyager avec une part de curiosité. Beaucoup des grands récits grecs sont des récits d'ailleurs à commencer par l'Odyssée, mais aussi l'Anabase, ce sont des grands trajets, hein, même si il n'est pas facile de les situer. Donc vous avez bien là la collecte, et la collecte parfois tout à fait volontaire, d'informations de première main. Mais évidemment, on ne se prive jamais des informations de deuxième main. De ce point de vue-là, d'ailleurs, Hérodote est tout à fait correct scientifiquement, parce qu'il dit toujours « on a dit que, on me dit que, mais j'y crois pas forcément ». Il retrace un certain nombre de légendes tout en les présentant éventuellement comme telles. Donc on est bien dans une collecte systématique et volontaire, qu'on peut quasiment, dans une vision tout à fait positiviste, qualifier de pré-scientifique.
Donc Hérodote a une vision du monde en trois continents. L'Europe, l'Asie, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, mais qu'il appelait la Libye. Ces trois continents sont de dimensions diverses, et Hérodote se moque d'une certaine manière de ses prédécesseurs qui souhaitaient en faire des parts égales, de manière tout à fait géométrique et cadrée, et préfère décrire ces continents en termes de nombre de peuples, en termes de frontières naturelles. La Libye, par exemple, Hérodote sait que l'Afrique, la Libye donc, est entourée par la mer, mais il ne sait pas jusqu'où elle se prolonge au sud. Donc il dit uniquement, l'Afrique est entourée par l'océan, mais je n'en dirai pas plus. À l'inverse, l'Europe du Nord, qu'il ne connaît pas, il ne souhaite pas dire comme ses prédécesseurs que cette Europe est entourée de mer. Il trouve plus honnête de dire « je n'en sais rien, est-elle bordée par la mer ou non, nous n'en savons rien ». Donc, aux prochains explorateurs de découvrir sur place et de confirmer ce qu'on peut confirmer. En revanche, ce qu'il connaît très bien, c'est donc l'Afrique du Nord, le bassin méditerranéen, Grèce, Italie du Sud, Asie mineure et toute la côte actuellement du Moyen-Orient jusqu'à Babylone qu'il a probablement visité.
Le pays occupé par les Perses s'étend jusqu'à la mer Australe, qu'on appelle mer Érythrée. Au-dessus, vers le nord, habitent les Mèdes. Du dessus des Mèdes, les Sapires. Et par-delà les Sapires, les Colchidiens, qui sont contigus à la mer du Nord, où se jette le Phase. Ces quatre nations s'étendent d'une mer à l'autre. De là, en allant vers l'Occident, on rencontre deux péninsules opposées qui aboutissent à la mer. J'admire d'autant plus ceux qui ont décrit la Libye, l'Asie et l'Europe et qui en ont déterminé les bornes, qu'il y a beaucoup de différences entre ces trois parties de la Terre. Car l'Europe surpasse en longueur les deux autres, mais il ne me paraît pas qu'elle puisse leur être comparée par rapport à la largeur. La Libye montre elle-même qu'elle est environnée de la mer, excepté du côté où elle confine à l'Asie. Quant à l'Europe, il ne paraît pas que personne jusqu'ici ait découvert si elle est environnée de la mer, à l'est et au nord. Mais on sait qu'en sa longueur, elle surpasse les deux autres parties de la Terre.
La description du monde, comme Hérodote est l'archétype, c'est en même temps une description de l'histoire du monde. Enfin, l'identité des peuples, pour prendre des mots chauds aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a de sens que par rapport à leur filiation. On ne peut pas voir les choses autrement. De ce fait, j'étais parti tout à l'heure de l'idée que l'une des grandes sources de la cartographie, c'est une vision cosmogonique. Et qu'une cosmogonie, c'est en même temps une genèse. Mais vous voyez qu'on peut pas ne pas parler du planisphère sans parler du sens de l'histoire. Les deux sont totalement imbriqués.
Il n'y a pas de vent, mais nous avons un bon courant. Maintenant, tu peux être content.
Tu ne l'es pas, toi ?
Est-ce que je sais ? Je ne suis jamais satisfait, moi. Un jour, je regrette la famille. Je voudrais rentrer à la maison et je deviens triste et sombre. En moi, il y a un autre qui réclame l'aventure, les voyages, la mer et aussi ses tempêtes. Il a tellement soif d'inconnu, tout l'attire, les îles, les démons, les géants. Il y a deux hommes en moi dont l'un est entraîné par une force inconnue.
Je te comprends. Et c'est pour ça que je te suis, quoique souvent je tremble de peur.
Et souvent tremblé aussi.
Alors là, c'est encore une petite carte, une carte en noir et blanc où figurent des termes latins, donc une carte imprimée de la fin du 15e siècle. C'est un disque. Alors au nord, on voit le monde connu, qui est une île, toujours donc cette espèce de d'île à trois lobes avec des péninsules, donc les continents qui sont l'Europe, l'Afrique et l'Inde. Et au sud du monde connu, séparé par un vaste océan, on trouve les antipodes. Donc c'est une très large bande de terre, donc vraiment un continent bien plus grand que le monde connu. Et sur la carte, on voit aussi les zones climatiques. Donc il y a les zones glacées, les zones tempérées et les zones brûlantes.
Ça, c'est absolument essentiel parce que on se situe dans une physique, une conception générale de la physique du globe, qu'on appelle souvent aristotélicienne parce que c'est celui, lui, qui l'a le mieux décrit et par ses textes que ça a été le mieux transmis, où l'univers a du haut et du bas. Si l'univers a du haut et du bas, nous sommes donc dans l'hémisphère nord en haut, puisque nous sommes la tête en haut, ce que l'expérience de tous les jours nous confirme. Mais comment expliquer alors que l'hémisphère nord, qui a bien des terres, puisque nous sommes des animaux terrestres, plus que des mers, ne se renverse pas, c'est-à-dire que le globe ne bascule pas. Il n'y a qu'une seule solution possible, c'est qu'il y ait plus de terres dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. D'où, de manière totalement déductive, c'est pas évidemment l'expérience qui l'a vérifié, la présence sur ces figures d'un continent antipodique. Les antipodes, c'est quelque chose qui est logique, puisque sinon le globe terrestre basculerait et que nous nous retrouvions la tête en bas. Et là, c'est formidable, l'imagination est merveilleuse. On a peuplé ça de siapodes, par exemple, ces personnages aux gros pieds qui se protègent de l'ombre du soleil avec leurs pieds, d'animaux fabuleux, voire du dopi. Donc vous avez bien là la combinaison de savoir, dans une certaine mesure vérifier, enfin que plusieurs sources peuvent donner un petit peu comme information. Et puis alors c'est au-delà de l'ancien monde où l'on est dans le mythe le plus total. Donc, vous avez là cet énorme continent, c'est écrit d'ailleurs les terres antipodiques, et cette idée qui est parfaitement logique hein, dans la conception générale du monde que l'on a, ne disparaîtra qu'au XVIIIe siècle dans notre cartographie.
Alors là encore, on est devant une carte rectangulaire qui représente le monde connu, le monde habité, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'écoumène, d'après les textes d'Ératosthène. Alors c'est une carte imprimée en noir et blanc, une carte du 19e siècle, réalisée par Gosselin. Et on voit bien qu'à partir d'Ératosthène, le monde s'allonge et se quadrille, c'est-à-dire qu'il s'étend au fur et à mesure des découvertes et des explorations. Et donc de l'ouest à l'est, il va donc des colonnes d'Hercule, qui sont le rocher de Gibraltar, jusqu'à l'Inde et à la Chine.
Alors peut-être on pourrait regarder par-dessus l'épaule d'Ératosthène dans le musée d'Alexandrie. Ératosthène, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ,
Christian Jacob,
est nommé bibliothécaire de la bibliothèque du musée d'Alexandrie. C'est un philosophe, c'est un mathématicien, c'est un grand lettré. Et à un moment donné, il conçoit le projet de tracer une carte de la Terre. C'est peut-être une commande du roi Ptolémée. Comment va-t-il faire? Est-ce qu'il va partir en voyage? Est-ce qu'il va lancer une expédition avec des mesures qu'on va prendre partout dans le monde? Non. Il reste en bibliothèque et avec les ressources de cette bibliothèque, c'est-à-dire les cartes antérieures, les récits de voyage, les descriptions régionales, il va faire un travail formidable à la fois de décodage et d'encodage de ces données, c'est-à-dire extraire de tous les textes des positions géographiques, des orientations, des distances, des toponymes et essayer de les mettre en place, de les mettre en ordre sur un espace graphique que l'on peut voir par exemple sur cette reproduction du système géographique d'Ératosthène, cette reconstitution de Gosselin en 1803. Gosselin qui était un des grands connaisseurs de la géographie ancienne. Et cette carte nous montre bien à la fois ce qu'était la carte d'Ératosthène qui a inspiré Strabon et ce qu'elle n'était pas. Alors à première vue, c'est très proche de nos cartes modernes. On voit des lignes verticales et des lignes horizontales et on se dit c'est un quadrillage de parallèles et de méridiens. Mais quand on regarde de plus près, on voit que ces lignes ne délimitent pas un quadrillage régulier, mais qu'il y a des distances très variables à la fois entre les parallèles et entre les méridiens. Et on se dit, là, cette carte apparaît davantage comme un jeu de construction géométrique, où à partir de quelques lieux connus, de quelques points connus, on va tracer des alignements. Et c'est par le pouvoir de la géométrie qu'on va, par exemple, tracer cette ligne fondamentale. Elle part des colonnes d'Héraclès et elle arrive au bout de l'Inde. Et elle passe donc par le détroit de Sicile, elle passe par le Péloponnèse, elle passe par Rhodes. Et on arrive ensuite sur une chaîne de montagnes que les anciens appellent le Mont Taurus et qui parcourt toute l'Asie d'ouest en est. Et on arrive à Tinae, qui est donc le promontoire extrême de l'Inde. Donc une ligne parfaitement droite qui permet de tracer un alignement donc avec des lieux remarquables, les colonnes d'Hercule, le détroit de Sicile, le Péloponnèse, Rhodes, et d'avoir la satisfaction d'une ligne et d'un alignement parfait. C'est une carte qui ne permet pas de voyager, qui ne permet pas de naviguer. C'est une vision véritablement géométrique, organisée par la géométrie, où le plus important est de réduire le désordre du monde par des lignes droites.
Bien sûr, cette aventure est effrayante. Et tous, nous sommes effrayés. Si nous avons peur, c'est que nul n'est venu jusqu'ici avant nous. Mais nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de l'océan extérieur, le chemin du retour. Nous bâtirons une flotte et nous cinglerons à travers la mer et le long du Nil jusqu'en Égypte. Et d'Alexandrie, nous rallierons la Macédoine en moins d'un mois. Nous retrouverons nos foyers, tous ceux qui nous sont chers, pour partager nos trésors et le récit de nos aventures en Asie. Et nous jouirons d'une gloire impérissable jusqu'à la fin des temps.
Alors, en fait, la géographie grecque antique que nous connaissons, c'est celle de la bibliothèque d'Alexandrie, en particulier d'Ératosthène. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont effectivement considéré la Terre comme un globe, qu'ils ont commencé à penser les zones, mais en ce sens-là, ils sont très probablement les héritiers des Égyptiens. Parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est la bibliothèque d'Alexandrie, que l'Égypte a une situation géographique très particulière, c'est un axe nord-sud. Et ce méridien, il coupe au sud ce que nous appelons, à la suite des Grecs, le tropique du cancer, dans un lieu appelé Sienne. Et on s'était aperçu, et les Égyptiens s'en étaient bien sûr aperçus, peut-être leurs prédécesseurs, que en cet endroit, quelque part vers le 21 juin, au fond des puits, le soleil arrivait tout en bas. Donc les rayons du soleil étaient verticaux. Et c'était la limite septentrionale que plus au nord, on n'avait pas ce type de phénomène. Mais au contraire, qu'il y avait un angle. Donc on a compris qu'on pouvait mesurer l'angle, et c'est Eratosthène qui va le faire à partir de la bibliothèque d'Alexandrie, entre autres dans une aventure assez folle, puisqu'il va falloir mesurer précisément la distance, et qu'on ne savait pas autrement mesurer une grande distance qu'avec un marcheur particulièrement dressé pour marcher régulièrement. Donc on a utilisé différents modes de calcul, mais en particulier celui-là, pour calculer la distance d'Alexandrie à Sienne. On a mesuré l'angle des rayons du soleil à midi, au moment du solstice d'été, et cet angle nous a permis à Eratosthène et aux autres mathématiciens de calculer la sphère terrestre. Donc les Grecs divisent la Terre, et nous continuons dans leur suite, à la diviser par quatre lignes imaginaires, les deux tropiques et les deux cercles polaires. Ce qui donne cinq zones terrestres, une zone chaude ou torride au centre, deux zones tempérées et deux zones froides. À partir de là, ils vont se mettre à faire une théorie de l'occupation de la Terre. C'est des Grecs et de la Grèce antique qu'on garde l'idée que seule la zone tempérée est favorable à l'humanité. Alors, les Grecs allaient même plus loin, puisqu'ils pensaient que on ne pouvait pas aller dans l'hémisphère sud, dans la mesure où la zone torride correspondait d'abord à un océan et que cet océan était bouillant. Ça a été une expérience qui a infirmé d'ailleurs cette croyance. C'était une expérience tout à fait intéressante que celle des Portugais lorsqu'ils ont progressé le long des côtes d'Afrique à partir de 1434, que de s'apercevoir qu'ils avaient franchi le tropique, car les capitaines étaient de bons astronomes, et qu'ils n'étaient pas cuits. Ils pensaient effectivement qu'il y a un moment où ils allaient bouillir. Donc cette remise en cause de la pensée grecque a été effectivement un aimant d'émancipation, de modernisation d'une pensée de la cartographie du globe au XVIe siècle.
Maintenant, Alexandre mena une armée de 150 000 hommes à travers les défilés de mines de couche pour pénétrer dans l'inconnu. Dans son rêve, c'était la route promise qui le mènerait à l'extrémité du monde. Nous étions devenus un empire en mouvement à des milliers de milles de la Grèce. Cuisiniers, architectes, médecins et géographes, usuriers, épouses, enfants, amants, prostituées, sans oublier les esclaves, anonymes et courbés, épines dorsales de cet animal d'un genre nouveau, enrichis ou dévastés, qu'ils y gagnent ou y perdent. Les territoires conquis ne seraient plus jamais les mêmes.
La connaissance du monde donc peut prendre différentes formes, différents niveaux, et peut-être que l'idée qu'il faudrait poser ici est celle d'une pluralité des visions du monde. En effet, selon qu'on est philosophe, qu'on travaille à la bibliothèque d'Alexandrie, ou qu'on est militaire ou navigateur, ou qu'on est un petit écolier dans une école hellénistique, on n'apprendra pas la même géographie, on n'aura pas la même vision du monde, et on n'aura pas les mêmes instruments intellectuels pour se représenter le monde dans lequel on vit. Ces différentes géographies, ces géographies parallèles, peuvent aller d'une image extrêmement schématique et littéraire, avec effectivement une représentation du monde qui réemploie des aspects très archaïques, remontant parfois à Homère et à Hérodote, pouvoir situer par exemple les voyages d'Ulysse, les voyages des Argonautes, les voyages de Dionysos et d'Héraclès et d'autres héros mythiques, avec quelques peuples qui ont toujours hanté l'imaginaire grec, comme les Scythes, les Celtes, les Indiens, les peuples de l'Afrique, de la Libye. Pour les gens de terrain ou les voyageurs, dans le cadre des navigateurs, rien ne prouve l'existence de cartes nautiques. Alors à côté de cela, il y a également le savoir très spécialisé de philosophes, d'intellectuels, de savants, d'astronomes, de mathématiciens, comme les savants du musée d'Alexandrie, qui vont élaborer ces représentations du monde finalement très, à la fois très complètes et relativement abstraites, sous forme de cartes. Mais ces cartes restent des dispositifs finalement très ésotériques, elles ne circulent pas largement dans la société, elles ne sont pas utilisées de manière systématique, c'est le texte écrit qui est le véritable vecteur du savoir géographique. Pour les militaires qui sont amenés à voyager, à aller en pays inconnu, il peut y avoir des itinéraires terrestres, il peut y avoir aussi une connaissance du terrain, notamment grâce à des guides, grâce à des informateurs indigènes, des explorateurs. Mais il ne faut pas imaginer l'usage de cartes d'état-major au sens moderne du terme, sur les champs de bataille ou dans les expéditions. On sait simplement qu'Alexandre le Grand, qui est parti donc vers l'Orient, qui a traversé tout l'Empire perse jusqu'aux confins de l'Inde, a dû finalement faire inventorier, découvrir et faire la carte du monde qu'il parcourait au cours même de l'expédition, accompagné d'arpenteurs qui ont pris des mesures de distance et ont tenu le journal de route. Et ce sera d'ailleurs l'une des sources des cartes hellénistiques.
Alors là encore, il s'agit d'une petite carte, une carte imprimée en noir et blanc, où le monde connu s'inscrit toujours dans un rectangle, mais on voit bien que la connaissance du monde évolue, puisque les frontières du monde connu, donc ce monde qui est toujours présenté comme une île, ont progressé vers l'ouest et l'est, donc vraiment jusqu'à l'Inde. Alors c'est une carte qui est dressée par Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville au milieu du XVIIIe siècle, et c'est une représentation des textes de Strabon. On voit d'ailleurs que l'évolution à partir d'Ératosthène est réelle, puisque certaines terres ont disparu.
Les géographes disent que c'est ici que Zeus enchaîna Prométhée à un rocher, quelque part dans ces hauteurs. On dit que l'air d'un aigle gigantesque surplombe le rocher.
Rappelles-tu ce qu'Aristote nous avait dit de ces montagnes?
Il disait que parvenu jusqu'à ces hauteurs, laissant la Macédoine derrière soi à l'ouest, on découvrirait l'océan extérieur à l'est. Je crains que ce monde ne soit bien plus vaste que nul ne l'avait imaginé.
Un monde de titans.
Nos éclaireurs ont eu beau explorer le moindre sentier, Alexandre. Il n'existe aucun moyen de traverser. À moins de passer par le sud, vers l'Inde.
Il faudrait être un dieu pour percer cette muraille jusqu'à l'océan extérieur. Cependant, je m'entête à chercher plus loin, toujours plus loin.
Avec Strabon, nous sommes dans un monde complètement différent. Nous sommes au temps d'Auguste, au début de l'ère chrétienne, c'est-à-dire que plusieurs siècles nous séparent d'Hérodote. Le monde a profondément changé, la connaissance du monde, les moyens de le décrire. Il y a eu l'expédition d'Alexandre le Grand qui a ouvert des perspectives très étendues vers l'Asie. Et il y a déjà la conquête romaine qui donne l'impression d'un élargissement des frontières du monde connu dans toutes les directions. Aussi, Strabon choisit-il de l'écriture, le principe de la description, comme Hérodote, pour donner une image aussi complète que possible du monde de son temps. Strabon est l'un des pères de la géographie descriptive, en fait, telle qu'elle a été représentée au XIXe siècle ou encore au XXe siècle. Mais l'intérêt de Strabon est aussi d'être... d'une part de donner cette image globale et d'autre part d'être un petit peu l'héritier et comme le bassin de rassemblement, si je puis dire, de tous les courants de la géographie grecque antérieure. Sur son parcours lui-même, donc il est né à Amasée en Asie mineure, on a quelques traces de ses voyages, on sait qu'il est allé à Alexandrie et que cette étape a été sans doute déterminante pour lui puisqu'il a pu vraisemblablement consulter les grandes ressources géographiques de la bibliothèque du musée. Et autrement, il a accompli la majeure partie de sa carrière, de sa vie, à Rome. Mais il faut souligner, comme dans le cas d'Hérodote, que Strabon n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le topographe ou le géographe officiel. C'est un particulier, quelqu'un qui décide de se consacrer aux choses de l'esprit, qui se situe lui-même dans une tradition intellectuelle et savante marquée par la philosophie, au sens de l'amour de la sagesse et de l'amour du savoir. Mais je voudrais vous faire remarquer quelque chose d'amusant. Il faut toujours comparer les cartes. Sur la carte d'Ératosthène, on voit que le lieu le plus au nord, c'est l'île de Thulé. Et sur la carte de Strabon, moins de 3 siècles après, cette île a disparu. Donc c'est tout à fait étonnant, parce qu'en général, les cartes sont des objets très conservateurs et il est plus facile de rajouter des lieux sur une carte que d'en enlever. Mais la méthode de Strabon, finalement, a consisté à mener une critique très poussée de ses prédécesseurs, dont Ératosthène, et à faire la part de ce qui était des lieux réels et des lieux imaginaires. Alors vous allez me dire, quand on travailler à Alexandrie ou à Rome, en bibliothèque, ou lorsqu'on a pu voyager un petit peu dans le bassin méditerranéen, comment peut-on faire pour être sûr que l'île de Thulé, c'est-à-dire le point le plus septentrional de la Terre habitée, existe ou pas ? Il y a une seule source sur l'île de Thulé, c'est le voyageur Pythéas, qui l'a décrit dans un traité dont Strabon nous conserve quelques fragments. Pythéas, c'est un navigateur donc au 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est parti de Marseille, est sorti par le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Héraclès, et remonté vers le nord en longeant les côtes du pays celte, et en parvenant donc à un moment donné à cette île de Thulé. Et il nous décrit des phénomènes atmosphérique, la consistance de l'air et de la mer. Il nous décrit également le jour permanent, c'est-à-dire tout un ensemble d'indices qui semblent prouver qu'il est réellement allé très loin vers le nord et qu'il décrit des phénomènes météorologiques de cette latitude-là. Mais donc Strabon, lui, dit mais Pythéas est un menteur, il raconte tellement de merveilles, tellement de choses incroyables, qu'on ne peut absolument pas se fier à lui pour mettre cette île de Thulé sur notre carte, pour la décrire. Et donc Strabon décide tout simplement d'enlever l'île de Thulé de sa géographie. Donc c'est paradoxal, parce qu'il consacre de très longs développements à expliquer que Thulé n'existe pas, mais en même temps, il ne la décrira pas dans sa géographie régionale. L'intérêt véritable de Strabon, c'est le monde habité par les hommes, le monde de l'Empire, et pour lui, il a le sentiment d'être à un moment où les limites du monde, l'ensemble du monde s'identifie pratiquement à l'Empire romain, c'est-à-dire donc l'idée d'une adéquation parfaite, et ça modifie aussi considérablement sa vision des peuples de la Terre, c'est-à-dire la civilisation s'étend de plus en plus et est portée par l'Empire romain, et les sauvages reculent de plus en plus vers les confins de la Terre.
Alors là, on feuillette un fac-similé des 64 cartes dont Ptolémée donne les coordonnées et qui permettent donc de les dresser. Alors ces facsimilés ont été dessinés à la fin du Moyen-Âge, donc c'est un recueil de cartes, des cartes peintes à la main, qui sont colorées de couleur ocre, de vert, de bleu et d'écru. Alors c'est très détaillé, on voit les montagnes, on voit les fleuves, on voit certaines forêts, on voit des monuments importants, ils sont souvent signalés, et puis on voit bien sûr les villes et les peuples qui sont localisés. Alors chaque point connu est nommé, et ce qui est inconnu est toujours signalé, donc le monde connu s'étend désormais des îles Fortunées, à la Chine et de l'Arctique, aux Indes et à l'Éthiopie.
Ptolémée, effectivement, est l'héritier d'un savoir hellénistique et il s'inscrit plutôt dans la tradition qu'évoquait tout à l'heure Christian Jacob, de la géographie mathématique qui découle en fait des propriétés de la géométrie de la sphère. Et il a produit trois grands traités qui sont des sommes, des connaissances accumulées, sommes à laquelle il a rajouté ses propres conclusions. Donc la carte du monde de Ptolémée qui a pu être reconstituée Au Moyen-Âge, à partir des indications comprises dans son troisième traité, le dernier, la géographie, donc cette reconstitution s'appuie véritablement sur les données du traité, qui est à la fois théorique, mais aussi extrêmement pratique, parce que Ptolémée a eu souci de faire œuvre de pédagogue et de fournir aux géographes des outils pour constituer eux-mêmes la carte du monde. Dans son traité de la géographie, dans son premier livre, il donne des définitions de ce que c'est que la géographie par rapport à la chorographie. Dans les livres suivants, il définit 64 régions et il donne pour chacune d'entre elles les coordonnées géographiques précises d'un certain nombre de lieux, mer, golfe, ville, montagne, etc. Alors il reconnaît de façon assez humble que la connaissance sur les lieux est variable selon le nombre de voyageurs qui les ont parcourus. Donc les coordonnées qu'il donne sont plus ou moins exactes. Néanmoins, pour chaque lieu qu'il décrit, il donne des coordonnées précises parce que son souci, c'est que les lieux puissent être assignés à une place précise sur la carte. Il a une vision à la fois théorique, en fait, de la géographie. Il veut effectivement faire en sorte qu'on puisse la représenter sur une carte et il apporte tous les outils pour cela, en donnant effectivement des définitions, en expliquant comment représenter la Terre sur une sphère, mais aussi comment la représenter sur un plan et d'indiquer différents types de projections qu'on peut utiliser pour ce faire. Au-delà d'une représentation générale du monde, on a un véritable atlas du monde avec 26 cartes régionales, 12 cartes pour l'Europe, 4 cartes pour la Libye et 12 pour l'Asie. Donc la première carte de la géographie, la première carte régionale, c'est celle des îles britanniques. La seconde, c'est celle de l'Espagne.
Ensuite, la celle de Galatie est divisée en 4 provinces, Aquitania, Lugdunensis, Belgica et Narbonensis, qui se suivent le long de la côte dans ce même ordre.
Concerne la Grande Germanie.
Les points suivants donnent la localisation. 15°00.
Enfin, je vais vous citer les noms, la Dacie, la Thrace, la Kersonèse.
16°45, 44°30.
Troisième carte d'Asie, c'est la Colchide, Libérie, l'Albanie, la Grande Arménie.
L'embouchure du fleuve Garinas, 17°30, 46°30.
La cinquième carte d'Asie concerne la Syrie, la Médie, la Perse, la partie.
La source de ce fleuve, 19°30.
Une carte entière est consacrée à l'Arabie heureuse, 16°30, et la Karmanie, donc la péninsule arabique.
Le promontoire sont autonome, 16°00, 47°15.
L'Hyrcanie, la Margiane, la Bactriane, Sogdiane,
17°15, et ça, c'est la Scythie. Le promontoire Pictonium.
Dans le cas de Strabon et Ptolémée, c'est très difficile de dire dans quelle mesure ils ont influencé la vision du monde de leurs contemporains. Ptolémée, enfin, c'est intéressant de voir qu'à son époque, vraiment contemporain, il y a encore des auteurs grecs qui véhiculent une image du monde s'appuyant sur Hérodote. Enfin, je pense par exemple à Pausanias, qui était lui-même un lettré, qui voyage en Grèce et qui perpétue les représentations des confins du monde au temps de l'Empire romain. Donc, sans doute une influence dans des milieux très, très spécialisés. Enfin, c'était le cas aussi pour Ératosthène. La géographie de Strabon a sans doute davantage circulé, mais peut-être que l'idée à retenir est celle véritablement des géographies parallèles. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un système géographique comme l'œuvre de Ptolémée apparaît, avec donc une innovation technique et graphique, visuelle, ce n'est pas pour cette raison que les représentations antérieures sont supplantées et disparaissent.
Ptolémée, c'est deux choses. C'est d'une part un travail de cartographie, et d'autre part, c'est une liste de lieux dont Ptolémée essaye de donner les coordonnées, c'est-à-dire la latitude et la longitude. Alors, pour la latitude, comme on l'a vu pour la mesure du tropique, c'est assez facile. Mais pour la longitude, c'est beaucoup plus compliqué. On ne pourra mesurer sérieusement la longitude qu'au XVIIIe siècle. Donc Ptolémée se trompe de ce point de vue-là beaucoup. Malgré tout, vous avez quand même un effort pour essayer de faire coller la géographie mathématique, celle de Ptolémée et d'Ératosthène, au récit de voyage, celui d'Hérodote et de Strabon. Donc là, vous avez deux éléments qui vont être constamment confrontés, qui de façon, somme toute, je dirais, de faire de la géographie, qui n'ont toujours pas disparu. Malgré tout, il y a des liens et on essaye de composer un savoir global qu'on peut tout à fait légitimement appeler une géographie.
C'est surtout un point de départ vers la tradition moderne, et sa géographie se présente sous la forme d'un dispositif très, très pratique et très technique, avec ses listes de positions, ses principes techniques qui permettent de tracer des cartes. Il y a tout un débat pour savoir si Ptolémée a lui-même tracé des cartes ou non, s'il y avait des cartes avec son traité. On les a pas conservées en tout cas, mais la transmission de ce traité technique vers le monde arabe, puis ensuite vers Byzance et le monde de la Renaissance européenne, va réellement permettre le tracé de tout un ensemble de nouvelles cartes très différentes des maps de médiévales. Donc en ce sens-là, c'est un point d'articulation entre la cartographie antique et la cartographie moderne.
L'intérêt de l'Antiquité dans le domaine de la cartographie et son poids peut-être le plus durable pour l'histoire de la cartographie générale, c'est qu'on sort petit à petit du mythe pour aller vers une vision du monde non pas réellement objective, mais orientée sur des calculs, donc avec Ptolémée et même déjà avec Ératosthène, et sur une vraie pensée géographique qui naît petit à petit avec la mise sur le papier de données qui étaient jusque-là consignées par des logographes et par des écrivains littéraires.
Merci à Christian Grataloup, Catherine Hoffmann, Christian Jacob et Guillaume Le Bailly. Merci aussi à Hélène Richard du département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale. Extrait d'Ulysse de Mario Carnerini, Jason et les Argonautes de Don Chaffet et d'Alexandre d'Oliver Stone. Prise de son Mathieu Leroy. Mixage Alain Joubert. Dessiner le monde ancien. Perrine Kervran, Véronique Samoylov.
Nous continuerons donc notre série consacrée aux histoires du monde en traitant des histoires universelles au Moyen-Âge. Vous pouvez retrouver cette émission pendant un mois sur le site internet de France Culture, www.franceculture.com, rubrique les émissions à la Fabrique de l'Histoire. Grâce au travail d'Antoine Lachant, vous pouvez trouver également des bibliographies complémentaires. Et puis je rappelle également que nous avons un groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur lequel nous discutons, nous débattons. Et j'ai ouvert récemment donc une nouvelle question posée à nos auditeurs, une question que nous posons tous les vendredis dit à des historiens ou historiennes, à quoi sert l'histoire aujourd'hui? Mais là, c'est vous qui pouvez répondre. Et puis, rappelons également qu'il existe un site qui s'appelle fabriquedesens.net qui transcrit certaines des émissions de la Fabrique de l'Histoire et de France Culture en général, un site tenu par Tao Saïd Sisliman, et que les deux dernières transcriptions concernent notre histoire des Gaulois. Il est 10h sur France Culture, nous retrouvons les nouveaux chemins de la connaissance avec vous, Raphaël Antoven, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Les nouveaux chemins de la connaissance, tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, sont réalisés cette semaine par Christine Robert, avec Clément Daté à la technique, préparé par Geneviève Méric, Avril Ventura, Giorgia Castagnoli, Mathilde Unger, Adèle Van Rett. Adèle justement qui vous donne rendez-vous comme tous les jours dans 50 minutes pour le journal des Nouveaux Chemins et la suite de son entretien avec Gwenaëlle Aubry. Ce mardi d'une semaine sur la rumeur. Dans les nouveaux chemins de la connaissance, la rumeur qu'on appelle aussi le plus vieux média du monde. Hein. Après José Camoun et Pierre-Yves Pétillon, venu hier vous parler de La Tâche, le roman de Philippe Roth, c'est aujourd'hui Pascal Froissart, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 8 et auteur d'un essai passionnant intitulé La rumeur, histoire et fantasme paru chez Belin. Donc Pascal Froissart qui est notre invité.
Commencer par le Pentagone.
Oui.
Hein? L'avion qui s'est soi-disant écrasé sur le Pentagone a provoqué très très peu de dégâts finalement.
Alors, quand on regarde les photos qui sont disponibles sur cet attentat, qu'on se fonde d'abord sur les photos fournies par le département de la Défense et sur les photos diffusées par la société de presse juste après l'attentat, on peut constater qu'il y a une impossibilité matérielle pour que la version officielle fonctionne. Dans la version officielle, on nous raconte que un Boeing 757, c'est un engin énorme, arrive devant le Pentagone, descend juste devant le bâtiment sur une pelouse qui se trouve à l'avant, frappe cette pelouse, rebondit, touche la façade, s'engouffre dans la façade au niveau du rez-de-chaussée du premier étage, est totalement happé à l'intérieur du bâtiment et brûle là à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Maintenant, n'importe qui peut regarder la photo qui est sur la couverture du livre, qui est la photo d'Associated Press, qui est la première photo qu'on ait prise après l'attentat. Donc, sur la partie gauche de la photo, vous avez de la fumée. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé un Boeing 757. Donc c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible.
Ouais.
Pascal Froissart.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. On vient d'entendre Thierry Messant commençant d'expliquer qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone le 11 septembre 2001. Thierry Messant qui était alors l'invité de Thierry Ardisson, l'autre Thierry, dans une émission dont le titre lui-même d'ailleurs résume ce qu'on pourrait dire de la rumeur, à savoir « Tout le monde en parle ». Pascal Froissart, on a commencé par cet extrait de Thierry Messant parce que vous-même, dans votre livre, dont je rappelle le titre « La rumeur, histoire et fantasme » paru chez Belin, dans la collection des débats, vous faites, sans accréditer les hallucinations de Messant, vous faites la critique des critiques qu'on lui porte au nom du fait, dites-vous en substance, que l'analyse de l'objet, c'est-à-dire de ce qu'il raconte, a été remplacée par l'analyse du discours de l'objet, au nom du fait, au fond, que l'imputation morale ou clinique, que Messant serait d'extrême droite ou qui serait paranoïaque, tiendrait lieu d'exégèse de son propos.
Exactement, et c'est une étude de cas d'autant plus intéressante que on parle de rumeur à son propos, alors que de toute évidence c'est un fait de presse, c'est-à-dire une affaire de presse. L'affaire Messant naît surtout et davantage du fait qu'il a été invité aux plus grandes heures des plus grandes chaînes et également sur Internet, et que donc là on a un mélange justement très adroit entre une parole, cette rumeur qui est dite de bouche à oreille et qui est dite archétypale et qui est dite archaïque, avec la modernité la plus exacerbée que sont les médias électroniques, et puis le procès, comme vous le dites, le procès en rationalité qui lui est fait, non plus, alors c'est ça aussi le génie de Thierry.